Valérie Navet, qui est étudiante, ex-étudiante, à vrai dire, parce que sa mémoire a été acceptée, je vous le dis, a été acceptée il y a une semaine? Deux semaines, ça fait deux semaines, donc diplômée maintenant, de l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal, en communication, le programme de communication internationale et interculturelle. Sa conférence se fait dans le cadre des activités de l'équipe de recherche Métis, donc migration, ethnicité, intervention en santé et services sociaux. Andréane ici est la coordonnatrice. Et voilà, je laisse à Valérie présenter, donc perfectionner sa pratique en milieu interculturel à la rencontre de l'autre.
Alors, bonjour. Comme Catherine disait, j'ai fait ma maîtrise en communication interculturelle. Puis, j'ai fait ma recherche dans le monde de l'éducation. Je vais vous expliquer un petit peu plus tard, mais j'ai vraiment essayé de dézoomer un petit peu les résultats du monde de l'éducation pour que ce soit adaptable à n'importe quelle intervention interculturelle. Reste que mes résultats sont dans le monde de l'éducation. Mais je serais très curieuse de savoir, en fait, après, dans une période de discussion, comment vous trouvez que le modèle que j'ai appliqué pourrait s'adapter à votre pratique professionnelle. Donc, c'est ça, savoir s'il y a des éléments qui sont applicables à votre pratique, si oui, lesquels. Donc, voilà. Donc, quelques mots sur ma recherche. Ma question de recherche était comment les expériences de communication interculturelle du parcours de vie des enseignantes du secondaire contribuent au développement de leur pratique interculturelle. Fait qu'en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a trois mots-clés: l'expérience interculturelle, le parcours biographique, puis la pratique enseignante. Fait que j'ai un peu essayé de prendre une photo de la vie, un peu la photo biographique des enseignants, une photo professionnelle, puis de faire un lien entre les deux. Qu'est-ce qui, dans la vie professionnelle et personnelle, nourrit leur pratique enseignante? Pourquoi j'ai fait cette recherche-là, en fait, c'est que j'avais une intuition que dans les relations interculturelles, il y avait des éléments qui nous permettent, si on est attentif à la relation, qui nous permettent d'améliorer finalement notre pratique. Donc pour moi, l'expérience finalement est un terrain fertile pour améliorer nos communications interculturelles. Un bref plan de la... Donc je vais vous parler un petit peu de la recherche pour mettre en contexte. La praxis interculturelle, c'est un modèle que j'ai utilisé. Je vais vraiment essayer que ce ne soit pas théorique, mais il y a des éléments qui sont intéressants à mon avis, puis que ce n'est pas si complexe à comprendre. Après ça, comment cette praxis-là se traduit dans la pratique des enseignants? Puis en fait, le modèle que j'ai utilisé, c'est un modèle qui se veut critique, vous allez un peu comprendre après. Puis les récits de pratique, ça m'a vraiment permis de relever c'était quoi les stratégies intéressantes donc, que les enseignants mobilisaient dans leur pratique. Après ça, j'ai soulevé des typifications d'expériences transformatrices, vous allez comprendre un petit peu plus tard, et on pourra discuter et je répondrai à vos questions. Alors, j'ai fait ma recherche dans une école qui était à la commission scolaire Marguerite Bourgeois. Cette recherche s'inscrivait dans le centre d'intervention pédagogique en contexte de diversité. Je le souligne parce que c'est en fait grâce au centre d'intervention que j'ai eu des libérations d'enseignants. Donc au lieu d'aller enseigner, ils venaient discuter avec moi. Donc ça a été un facilitant pour moi. Donc j'ai fait 7 récits de pratiques professionnelles avec des enseignants qui avaient vraiment des parcours différents. Donc il y en a qui avaient 5 ans d'expérience, d'autres qui étaient près de la retraite, donc plus de 25 ans d'expérience, avec des origines différentes. J'avais des hommes, des femmes, donc c'est vraiment un corpus qui était diversifié. Puis 67% des jeunes au moment où j'ai fait ma recherche étaient issus d'immigration, donc c'est une école qui est très marquée par la diversité. Brièvement, ma méthode, tantôt je disais que je prenais un peu une photo de la pratique des enseignants. C'est ça, en fait, qu'il faut comprendre, je crois, d'une pratique professionnelle. Puis c'est de rendre compte de la complexité inhérente à l'exercice de la profession professionnelle du point de vue de ceux qui l'assument au quotidien. Donc, c'est quoi le sens, en fait, que ces personnes-là attribuaient à leur pratique professionnelle? Un tout petit peu de théorie, mais en fait, la praxis interculturelle, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est... l'intelligence de l'action, c'est des actions qui sont réfléchies et qui visent des changements sociaux, en fait. Fait que c'est comme un espèce d'idéal d'action. Ce qui est important de comprendre, c'est que ça a une visée un peu éthique. Ce qu'on veut, c'est pas juste, c'est des changements pour le mieux, en fait. Fait qu'une praxis interculturelle, ce serait des actions idéales dans un contexte interculturel. Donc, qui permettent de naviguer dans des environnements complexes, contradictoires parfois et exigeants. Donc, des actions qui sont socialement responsables. Le modèle que j'ai utilisé, en fait, il est constitué de 6 dimensions différentes, puis chaque dimension est considérée comme une condition d'accès à la praxis interculturelle, selon Sorrell. Et puis, ben, je vais vous parler de ces 6 dimensions-là brièvement, puis après ça, je vais vraiment vous expliquer comment ça se traduisait dans la pratique des enseignants. Fait que le premier, inquiry, c'est en fait, c'est le questionnement, c'est comme ça qu'on pourrait le traduire. Puis c'est vraiment le désir de connaître l'autre, faire un pas vers l'autre, puis de se suspendre de ses propres jugements, en fait, parce qu'on a toujours des a priori, puis d'essayer de donner des nouvelles interprétations à une situation interculturelle. Donc, c'est s'investir auprès de l'autre. Ce qui est intéressant, en fait, de cette dimension-là, c'est prendre un risque. Des fois, ça nécessite de sortir de sa zone de confort, d'aller à la rencontre de l'autre. Donc, voilà pour le questionnement. Le cadrage, framing, c'est de changer de perspective, de changer de cadre de référence pour interpréter une situation. Ce que ça permet, en fait, c'est de construire des connaissances et non sur l'autre, mais avec l'autre. Donc, vraiment de prendre conscience de dans quel contexte s'inscrit la relation, puis de contextualiser la relation interculturelle. Positionnement. Le mot-clé pour positionnement, c'est pouvoir. En fait, c'est prendre conscience des relations de pouvoir qui existent entre deux personnes, parce qu'il y a, il y a plusieurs types de positionnement, le positionnement géographique, social, culturel, politique. Donc, vraiment, prendre conscience, c'est qui les exclut, c'est qui les marginalisés, c'est qui sont oubliés parfois. Mais surtout, c'est d'essayer de renverser les systèmes injustes. Donc, si on est privilégié, de faire un effort supplémentaire justement pour rééquilibrer la relation. Reconnaître que nos interprétations du monde sont socialement construites et historiquement construites aussi. Donc, c'est ça pour le positionnement. J'y vais vite parce qu'après, je veux comme plus approfondir qu'est-ce qui est directement lié à la pratique des enseignants. Le dialogue, pour Sorrell, c'est vraiment comme plus qu'une transmission de messages entre deux personnes. Le dialogue, ça veut transformatif. Donc, deux personnes s'inter-influencent. Et puis, ça implique une expérience, donc d'être engagé dans la relation. Jodelet qui disait que alter, en fait, c'est considérer l'autre comme un être changeant. Ça, c'est important aussi à considérer dans le dialogue. La réflexion, vous comprendrez que c'est réfléchir sur ses actions par l'introspection, l'observation, l'analyse. C'est vraiment de faire un va-et-vient entre nos actions et la réflexion. Donc, réfléchir à ce qu'on fait, qu'est-ce qui guide nos actions et d'y revenir. Et l'action, en fait, elle se doit d'être éthique et responsable, mais c'est ça, de reconnaître qu'est-ce qui guide nos actions. Puis, ce qui est important aussi, c'est que Sorrell considère l'inaction comme une action, parce que l'inaction, c'est un choix, c'est le choix de ne pas agir, donc c'est une action. Donc ça aussi, ça fait partie de l'action selon Sorrell. Donc voici brièvement le modèle sur lequel je suis tombée. J'ai envie de vous dire, au début, moi, je voulais parler de comment se développe la compétence interculturelle des enseignants. Puis le mot compétence, finalement, aussi, qu'est-ce qui existait dans la littérature, on trouvait que c'était un peu trop hermétique, un peu trop mécanique. Puis ce qui est intéressant de ce modèle-là, c'est que chacune des dimensions sont interreliées et se nourrissent entre elles. Fait que c'est un modèle qui est un petit peu plus complet et un petit peu plus dynamique, finalement. Ça, c'est les petits apports que j'ai faits à ce modèle-là. En fait, ce que j'ai constaté avec ma recherche, c'est que l'action, au lieu d'être une parmi les 6 dimensions, elle se retrouverait au centre du modèle. Donc, à chaque action, au moins une des dimensions en découlerait. Et puis, là, j'ai mis en bas réaction, action et proaction. En fait, c'est des degrés dans l'action de mobilisation de soi. Je m'explique. Fait que ce qu'on comprend, en fait, c'est les trois rectangles en bas, là, c'est lié à l'action qui est au centre. La réaction, en fait, c'est vraiment plus passif. C'est comment on réagit à la différence, comment on réagit à la diversité. Ça se passe peut-être plus au niveau de la réflexion, au niveau des émotions. Fait que c'est une action, mais qui est assez passive. L'action, je la représente comme un peu les gestes quotidiens dans une pratique professionnelle. Ce qui est génial de l'accumulation d'expérience, c'est qu'il y a des actions qu'on fait qui deviennent naturelles, qui deviennent pas nécessairement conscientes, en fait, puis qu'on fait à tous les jours. Ça, c'est cette catégorie d'actions-là, selon moi. Donc, une action qui n'est pas nécessairement consciente. Et celle qui a le plus de portée, à mon avis, c'est la proaction, en fait. C'est finalement, c'est une action qui relève d'une réflexion engagée où on a une intention, justement, tu sais, tantôt on parlait avec le positionnement des rapports de pouvoir, une intention de rééquilibrer les rapports de pouvoir puis d'avoir des relations interculturelles qui répondent à des règles éthiques. Donc voilà pour le modèle de Sorrells. Comment ça s'est traduit en pratique? Donc, le questionnement, les enseignants parlaient beaucoup de l'importance d'être curieux envers les élèves, d'aller, par exemple, à un moment donné, il y a une enseignante qui me racontait qu'il y avait un élève qui dormait tout le temps en classe, qui avait l'air super désintéressé, qui n'avait pas l'air comme de vouloir apprendre quoi que ce soit. Puis finalement, en s'intéressant à ce jeune-là, en posant des questions à ses parents, aux personnes dans l'entourage, elle a réalisé que c'est pas une priorité pour lui l'école parce que il travaille 25 heures semaine pour payer son appartement, il est au secondaire. Donc, en fait, ça change un petit peu la perception puis la manière dont l'enseignante finalement a intervenu avec ce jeune-là. Ben, au lieu de lui taper sur les doigts parce qu'il connaît pas ses règles de participe passé, il lui a peut-être offert un déjeuner ou je sais pas trop. Mais donc voilà, donc de prendre le temps de se questionner, ça a été un enjeu parce que prendre le temps quand t'as une tâche surchargée, c'est difficile pour les enseignants. Fait que des fois, ils sentaient un peu le dilemme de faire le choix entre justement répondre au plan de cours, en fait, à tout le didacticiel qu'ils doivent transmettre et prendre en compte les différences culturelles. Fait que ça grossit un peu la tâche des enseignants. Ils me disaient que ça, c'est une difficulté, en fait, qu'ils veulent prendre le temps, mais qu'ils ne peuvent pas nécessairement prendre le temps toujours. Des trucs, collaborer avec d'autres professionnels, aller voir la direction, avec les TES, d'autres, on n'a pas... En fait, les enseignants n'avaient pas toutes les mêmes relations avec les élèves. Fait que des fois... En fait, on peut avoir d'autres perspectives. Ça a été intéressant pour eux, des fois, de se consolider puis de s'entraider. Les parents aussi sont des sources intéressantes d'informations pour les enseignants. Je crois que c'est ça pour le questionnement. Ah oui! Bien, en fait, c'est plus comme à la négative, mais il y a un enseignant qui me disait « Moi, je connais rien des élèves CRI puis des élèves qui sont juifs assidiques. Je connais rien de leur culture puis c'est difficile pour moi d'interagir avec eux. » Fait qu'en fait, ce que ça nous dit aussi, c'est que c'est plus difficile quand on ne connaît pas, donc vaut mieux connaître. Vaut mieux essayer de connaître parce que ça facilite un peu la relation. Voilà, le cadrage... Considérer qu'il y a d'autres différences, ça, c'est vraiment ressorti beaucoup. Il n'y a pas juste la différence culturelle, il y a l'âge, il y a le genre, le statut social, la situation financière, la situation familiale. Il y a beaucoup d'éléments qui sont importants à considérer. Puis c'est ce que les enseignants disaient, il faut recadrer des fois. Il faut remettre en perspective. Se connaître soi-même, ça aussi, ça faisait partie des valeurs importantes. Un exemple intéressant... Il y a une enseignante qui me partageait qu'il y avait un petit garçon qui, dans sa classe, il était super énergique, il avait beaucoup d'énergie. Il réussissait très bien à l'école, mais il était très dérangeant parce qu'il y avait un surplus d'énergie. Donc, au bulletin, elle a écrit... en fait, il y avait des bonnes notes partout, mais elle a écrit en commentaire « Comportement à revoir, trop d'énergie », quelque chose comme ça. Et le lendemain matin, le petit garçon avait été battu par son papa parce que... en fait, c'est ce qu'elle a su en adoptant le cadrage et en essayant d'aller chercher un peu c'est quoi la perspective du papa. Elle a su que pour lui, pour le papa, c'était volontaire. L'enfant voulait déranger, ça venait de lui. Puis la manière de corriger ça, c'était de lui donner une baffe. Alors que pour l'enseignante, c'était le surplus d'énergie n'était pas volontaire, c'était un TDAH selon elle et il fallait médicamenter. La médicamentation aussi est représentée différemment dans certaines cultures. Donc là, déjà là, juste de prendre en considération des différentes perspectives puis qu'au final, le papa, il n'était pas violent parce qu'il voulait juste être violent, mais son objectif, c'était d'être un bon papa et qu'il connaissait, c'était de frapper l'enfant. Donc, finalement, ça a été plus facile d'engager un dialogue, sachant les différentes manières de percevoir le TDAH. Donc, ça, c'est un exemple que j'ai trouvé très intéressant. Pour ce qui est du positionnement, ça a été intéressant à l'école parce qu'il y a plusieurs types de positionnement, en fait. Il y avait un positionnement qui était institutionnel, où l'école doit se positionner par rapport à la diversité. Par exemple, il y a eu un gros débat dans cette école-là sur est-ce qu'on libère un local de prière pour les élèves musulmans. Donc ça, c'est aussi... C'est toute une réflexion qui est liée au pouvoir, en fait. C'est qu'est-ce que nous, on fait par rapport à... Ou c'est à l'identité de l'école, l'identité québécoise et l'identité de ces jeunes-là. Il y avait aussi, par rapport aux questions de la langue pendant les examens, par exemple, un examen de sciences, mais que les élèves ne comprennent pas les questions en français, est-ce que les enseignants pouvaient répondre? T'sais, ça, c'est quelque chose sur lequel il faut se positionner. Est-ce qu'on répond aux questions pendant les examens, alors qu'aux examens du ministère, ils n'ont pas droit? Est-ce qu'on adapte les calendriers des examens en fonction des fêtes religieuses, par exemple le Nouvel An chinois, ou le Ramadan, ou des trucs comme ça. Fait que ça, c'est toutes des réflexions, en fait, qui existaient dans l'école au moment où j'ai fait ma recherche. Il y a aussi le rapport que j'ai dit colonial. En fait, c'est comme ça que les enseignants l'utilisaient, mais surtout les enseignants qu'on dit, là, je vais mettre des guillemets, mais d'origine québécoise, c'est aussi... c'était difficile pour les enseignants de nommer ça. Ils disaient, on dit-tu de souche, on dit-tu pure laine, on dit-tu comme... C'est quoi un Québécois? C'est une grande question. Mais je vais dire d'origine québécoise avec des gros guillemets. Mais eux, en fait, trouvaient ça difficile en tant que blancs d'enseigner à... Là, j'utilise leur mot, mais à des noirs. En fait, ils subissaient aussi... Ben, ils subissaient. C'est comme ça qu'ils l'ont vécu, mais du racisme... En fait, il se faisait traiter de raciste par les élèves, en fait. Puis ça a été difficile pour eux parce qu'ils devaient, en fait, ils doivent prouver dans leur quotidien qu'ils ne sont pas racistes. Une des stratégies pour eux, c'est d'agir sur les comportements des jeunes. Fait que de dire ce comportement est préjudiciable, par exemple. Fait que c'est pas sur le jeune, mais plus sur le comportement qu'on intervient. Fait que ça, c'est une des stratégies. Il y a des stratégies aussi qui étaient de montrer une ouverture, par exemple. Il y a une enseignante qui avait un mari de peau noire, fait qu'elle a montré son enfant pour montrer un peu qu'ils sont ouverts à la différence. Mais ça, c'est important de le prendre en considération dans la relation élève-enseignant et puis d'en prendre conscience. Dernière chose, on représente toutes quelque chose. Puis, il y a une enseignante issue d'immigration qui me disait, « Moi, c'est vraiment plus facile pour moi de parler aux parents issus d'immigration puis de leur dire un peu quoi faire, aller à tel endroit, puis de les checker un peu des fois parce qu'elle-même est issue d'immigration. » Mais elle disait, « Je pourrais pas dire... quelqu'un qui est d'origine québécoise ne pourrait pas avoir le même discours. » Fait que de prendre conscience de qu'est-ce qu'on représente, c'était aussi important. Le dialogue, en fait, ce qui est ressorti beaucoup, en fait, c'est vraiment des qualités humaines. Être respectueux, être empathique, reconnaître les élèves, leur laisser un espace pour qu'ils s'expriment, que ce soit à travers les travaux, que ce soit dans une petite discussion, parler des choses qu'ils aiment. C'est ça, être respectueux, curieux, bon, voilà, c'est ce qui est écrit là. Identifier les obstacles à la communication. Des fois, le non-verbal, c'était difficile à comprendre, mais d'aller un peu élucider, d'aller chercher qu'est-ce que ça veut dire. La langue, des fois, les thèmes abordés. Il y a une enseignante d'une classe d'accueil qui me disait, moi, parler d'homosexualité avec des jeunes qui viennent en accueil, je trouve ça difficile. Premièrement, ils ne maîtrisent pas la langue toujours, et c'est des questions de valeur très importantes. Fait que c'est délicat, des fois. Donc, juste de reconnaître, de cibler les potentiels obstacles dans la communication, c'est important pour eux. Trouver un équilibre entre l'universalisme et le différentialisme. C'est des gros mots, mais en fait, ce que ça voulait dire, c'était de ne pas considérer les jeunes... T'sais, universalisme, ce serait que tous les jeunes sont pareils. Différentialisme, ce serait de dire qu'il faut intervenir avec les jeunes de manière différente, avec tout le monde de manière différente. Puis, c'est ça, c'est d'essayer de trouver un équilibre entre les deux, mais ce vers quoi les enseignants penchaient le plus, c'était vers l'universalisme. Et puis, créer le lien de confiance, c'était vraiment important pour eux. Puis des fois, on va y revenir, mais créer des lieux communs, créer du commun, c'était quelque chose qui permettait de créer un lien de confiance, fait que de parler des animaux avec les cris, par exemple. Ça, c'était quelque chose qui revenait. Donc voilà, pour le dialogue, la réflexion. Il y a un des enseignants qui me disait, quand j'ai des préjugés, parce qu'ils essaient beaucoup de les reconnaître, j'essaie de puiser dans des contre-exemples pour les désamorcer. Fait que si j'ai... si, par exemple, je vois... j'ai pas d'exemple qui me vient en tête, mais... bref, la personne a un préjugé envers une culture, elle va essayer de se remémorer une situation qui a été agréable et qui a été positive avec cette même culture-là pour essayer de désamorcer les préjugés. Ça, je trouvais que c'était super intéressant. Puis ça fait partie d'une pratique réflexive, finalement, comme de réfléchir à ses propres préjugés puis de s'en rendre compte. Prendre du recul pour réfléchir aux actions. Il y a une enseignante qui, encore au moment des réunions de parents, où il parlait des notes du bulletin, d'aller chercher un peu, d'aller savoir... c'est quel type de parent, parce qu'elle disait, devant des élèves russes hyper performants, un 87, c'est pas bon. Fait que là, c'est d'adapter, en fait, l'intervention en fonction de c'est quoi la perception de la réussite. Elle disait, versus des parents, puis là, elle a dit ça, mais ça, je veux pas généraliser non plus, mais des parents haïtiens qui étaient violents, là, une mauvaise note, elle va essayer de mettre un peu de crémage autour, tu sais. Donc, c'était vraiment d'adapter en fonction et de réfléchir à l'impact de son évaluation sur le jeune. Donc, voilà, renouveler ses perceptions de l'autre, ben ça, c'est essentiel. Un des exemples que j'ai trouvé aussi très intéressant, c'est une enseignante qui me disait « Je veux m'assurer que tout est correct avec les jeunes issus d'immigration, de bien considérer la différence, de la prendre en considération, puis de faire mon mieux avec eux. » Puis elle dit « J'ai réfléchi à tout ça, puis je me suis rendu compte que mes élèves blancs, je leur accordais pas nécessairement d'attention. Pour moi, les élèves blancs allaient bien. Ils étaient dans des situations... il allait bien, puis finalement, il était dans des situations de grande précarité. On se souvient que ma recherche a été faite dans un milieu défavorisé. Donc, finalement, c'est ça, c'est de réfléchir aussi à qui on oublie peut-être. Les élèves blancs, à ce moment-là, peut-être, ont été un peu oubliés. Puis, le plus important, en fait, selon moi, c'est l'action. Comme je vous parlais tantôt, l'action découle souvent d'une des autres dimensions. Puis les actions les plus importantes que j'ai soulevées dans la recherche, c'était varier les approches pédagogiques pour les adapter aux jeunes. Fait que, par exemple, dans la littérature, il y a une enseignante de français qui disait « Sol puis Félix Leclerc, ça passe pas toujours. » Fait que d'adapter un peu puis d'aller chercher des textes qui viennent chercher les jeunes. T'sais. Fait que... Ou il parlait de mimer ou de faire une démonstration avec des jeunes qui comprennent pour que ça interpelle plus les autres qui sont moins à l'aise avec la matière. Utiliser l'humour pour désamorcer les tensions, ça marchait beaucoup. Une fois que la relation de confiance est créée, l'humour, ça marchait beaucoup pour des fois dédramatiser des petits tabous. Il y avait un exemple d'un prof d'éducation physique qui enseignait le yoga, puis... ils ont fait la position de l'enfant, puis il y a c'est un peu délicat, je trouve, mais ça a l'air que ça a bien marché à ce moment-là, mais il y a deux élèves de confession musulmane qui ont dit « Ah, ça, c'est ma position préférée, parce que c'est la position de la prière », mais ils se sont pas rendus compte qu'ils étaient confortables comme ça, puis là, l'enseignant dit « Comment on se demande pourquoi vous aimez ça? » Tu sais, c'était un peu comme par l'humour, puis là, tout le monde a ri dans la classe, mais c'était pas... C'est sûr que j'imagine qu'il faut qu'il y ait un ton qui soit déjà installé, puis une relation de confiance. Mais des fois, juste un petit peu d'humour, ça fait en sorte que ça désamorce les tensions ou ça met un peu tout le monde sur le même niveau. Discuter des différentes visions du monde, en fait, par la discussion, pour essayer de comprendre. La discussion, ça a beaucoup été quelque chose de valorisé par les enseignants. Associer la matière à des points de repère pour les élèves. Créer du commun. Ça, là, c'est quelque chose qui était vraiment, vraiment important. que ce soit de parler d'un personnage, tu sais, c'est en cours de science d'aller chercher des personnages qui viennent d'un petit peu partout dans le monde pour interpeller les jeunes, que ce soit justement de parler d'animaux tantôt, ou parler de montagnes, ou parler de, tu sais, des choses qui viennent accrocher les jeunes, parce que c'est ce qui permet, en fait, d'engager une relation qui est significative plus. Fait que créer du commun, ça faisait aussi en sorte que les différences prennent un petit peu moins d'importance, puis c'est ce qui est commun, finalement, qui prend le plus de place. Donc voilà, s'investir personnellement dans la relation. Tantôt, je parlais du dialogue, comment deux personnes s'inter-influencent. Mais ce qu'une enseignante disait, c'est que les élèves aiment ça quand les enseignantes parlent d'eux, parlent de leurs petites histoires, parlent de leurs difficultés, parlent de leur matinée, ou de quand... l'enseignant se dévoile un peu plus, l'élève est comme plus porté à s'impliquer. Fait que ça, c'est ce qui a été soulevé. Collaborer, évidemment, je l'ai dit tantôt, avec d'autres professionnels, avec les parents, avec l'entourage, avec les amis des jeunes. Puis trouver une manière d'impliquer les jeunes d'une certaine manière. Quand je parle de varier ses approches pédagogiques, je parle aussi de peut-être modifier les attentes. Vous allez comprendre avec l'exemple que je vais vous donner, un professeur d'éducation physique qui disait qu'il y a un jeune qui ne voulait pas jouer au basket. Il apprenait à jouer au basket dans ce cours-là. Puis le jeune ne voulait pas parce que c'était mixte. Il ne voulait pas jouer avec les filles. Puis dans sa culture à lui, les garçons et les filles sont séparés. Puis finalement, son objectif pédagogique à l'enseignant a changé. L'objectif d'apprendre le basket a pris un peu le bord. Puis là, c'était plus comme, OK, ici au Québec, les relations de femmes, c'est plus égalitaire. Ici, on joue avec les filles. Fait que c'était un peu plus axé là-dessus. Fait que ça, c'est ça. Quand je dis adapter les approches pédagogiques, c'est aussi des fois d'accorder plus d'importance à autre chose que la didactique. Quand je parle de collaboration, par exemple, il y a deux enseignants qui ont joué à un moment donné bon cop, bad cop. Dans le sens que il y a un enseignant qui voulait donner une conséquence à un jeune, mais sachant qu'il avait une super bonne relation avec un autre prof d'éducation physique, il a donné la conséquence, mais c'est l'autre prof qui lui a fait faire. Fait que finalement, l'élève était moins contre l'autorité, mais plus impliqué. Fait que c'est ça, de collaborer avec les autres profs, parce que c'est pas vrai que tout le monde s'entend bien avec tout le monde, puis il y a certains profs avec qui on a des meilleures relations qu'avec d'autres. Fait que j'ai bien aimé le bon cop, bad cop, comment ils m'ont dit ça. J'ai passé aux typologies d'expériences que j'ai soulevées. En fait, l'expérience transformatrice, comment je la définis, en fait, c'est simplement que c'est une expérience qui a provoqué un changement soit sur soi, soit par rapport à l'autre, ou soit sur la relation entre soi et l'autre. Fait que c'est simplement des apprentissages qui ont soulevé des expériences qui ont soulevé des apprentissages. Donc la première, c'est l'expérience désamorçante, qui a finalement réduit des réticences par rapport à l'autre. Plus on est en contact avec la différence, plus ça devient un terrain connu, en fait. Moins les expériences interculturelles sont vertigineuses un peu, puis ça permet, en fait, d'être plus ouvert, puis la différence devient un peu normalisée. Tu sais, c'est plus... on parlait, en fait, de la crainte de l'autre, mais la crainte de l'autre diminue plus on est en contact avec l'autre. Ça a l'air super simple, mais... Un exemple intéressant, parce qu'en fait, c'est ça, la différence se voit dédramatisée, puis les points communs prennent plus de place. Un exemple intéressant, c'était une enseignante qui est d'origine algérienne, qui est allée à une école française pendant son secondaire. Quand elle est arrivée à l'université, elle était en contact avec des personnes intégristes, puis elle avait peur un peu. Les femmes ont commencé à se voiler en Algérie, puis c'était comme... Elle n'était pas habituée à ça, puis elle avait... Comme la crainte de l'autre, ça faisait partie de son quotidien. Puis au final, d'étudier avec ces gens-là à tous les jours, que ce soit ses collègues, ben ça l'a en fait, ça l'a enlevé un peu cette peur-là. Puis fait que ça l'a désamorcé la relation. Voilà. Après ça, j'ai l'expérience décentralisante. C'est vraiment lié au cadrage, en fait. C'est la capacité à changer de perspective. Puis c'est pas de changer de perspective une seule fois. C'est la capacité à, dans plusieurs situations différentes, de développer cette capacité-là à changer de cadre de référence, comment de changer de filtre pour interpréter une situation. Ah oui, c'est ça. Ça permet en fait d'élargir l'éventail d'interprétations possibles. Puis les deux enseignants qui étaient le plus expérimentés, donc qui étaient près de la retraite, me disaient, j'en ai vu beaucoup des situations. Fait que je suis plus capable de comprendre puis d'appréhender les besoins des jeunes puis de comprendre comment un jeune pourrait réagir dans cette situation-là. Fait que ça choque un peu moins encore. Là. Donc ça, c'est l'expérience décentralisante. L'expérience révélatrice, en fait, c'est simplement que dans une relation où les deux personnes s'influencent, on apprend beaucoup. On apprend sur c'est quoi les valeurs de l'autre, sur c'est quoi les normes de l'autre, mais c'est quoi nos propres valeurs, c'est quoi nos normes. J'écris une phrase, j'ai essayé, je trouve que en fait ça parle beaucoup, c'est « Parce que l'autre est que nous ne sommes pas, et parce que l'autre voit en nous que nous ne voyons pas, la rencontre de l'autre nous en apprend sur nos identités. » En fait, fait que ça nous permet de prendre conscience des représentations de soi. Puis ça, ça se traduisait dans des expériences, des études internationales, les stages à l'étranger, des relations amoureuses. Un exemple encore, c'est... je parle encore de l'enseignante algérienne qui ne se considérait pas comme arabe dans son pays. Et en arrivant ici, tout le monde la considérait comme une personne arabe. Donc là, il y a eu un espèce de tiraillement identitaire. Est-ce que je suis arabe? Est-ce que je ne suis pas? Donc, en étant confrontée à l'autre, il y a des révélations identitaires qui se font. L'expérience empathisante, en fait, vous comprendrez que c'est d'être capable de se mettre dans la peau d'autrui, mais... C'est pas juste une capacité, encore là, à le faire une fois, mais dans plusieurs situations, à devenir empathique. Puis plus on vit, encore là, c'est super logique, mais plus on vit des expériences différentes, plus c'est possible de faire des liens avec notre propre vie et donc d'être empathique. Parce que si, à un exemple, ça peut être vraiment de petite à grande envergure. Le fait d'être parent, c'est plus facile de se mettre dans la peau des parents avec qui on interagit. Mais ça peut être aussi, il y a un enseignant qui disait « Moi, j'ai déménagé de Québec à Montréal, puis j'ai trouvé ça super difficile de changer d'école, changer d'amis, de changer de ville. J'imagine pas ceux qui sont ici d'immigration. » Fait que c'est pas nécessairement de grande envergure, mais c'est d'être capable de faire des liens avec sa propre vie. Donc, même chose pour les enseignants qui avaient vécu le parcours migratoire, c'est plus facile de comprendre quand toi-même t'as vécu par tous les processus d'immigration. L'expérience crédibilisante, ça le dit, en fait, c'est une des expériences qui donnait de la crédibilité aux enseignants. On avait tendance à leur faire plus confiance. Encore là, si je parle des enseignants qui ont vécu le parcours d'immigration, qui sont considérés réussis, bien, on va avoir tendance à faire comme eux et à leur faire confiance. Tantôt, je disais, l'enseignante qui a un mari qui est noir, entre guillemets, c'est comme ça qu'elle disait, qui montre une photo de son fils pour prouver qu'elle est ouverte à la différence, c'était aussi, d'une certaine manière, crédibilisant, une expérience crédibilisante. Et puis, l'expérience instructive, en fait, ça, c'est vraiment plus au niveau cognitif, là, mais des expériences qui nous renseignent sur l'autre, fait que des études universitaires, l'apprentissage d'une langue, ça peut être un petit peu problématique des fois parce qu'ici, on apprend, par exemple, les musulmans agissent comme ça, comme ça, comme ça. Ça peut être problématique. Mais un des exemples intéressants dans ma recherche, c'était une femme aussi issue d'immigration qui est arrivée au Québec, a enseigné au primaire. Donc, à des jeunes qui ne savaient pas écrire. Donc, elle a appris à ces jeunes-là à écrire le français et elle-même a appris le français. Donc, c'était plus facile après, dans une classe d'accueil, d'apprendre à des jeunes qui parlent pas le français, le français et à l'écrire. Fait que finalement, c'est ça. L'enseignement au primaire et le fait d'apprendre elle-même le français lui a permis d'être une meilleure enseignante en classe d'accueil au secondaire. L'expérience instructive, elle nous renseigne, comme je disais, sur les différentes cultures, mais c'est aussi les jeunes. Puis ça peut être le point de départ pour la relation de confiance qui se développe. Tantôt, je parlais de créer du commun, ben ça peut être le point de départ. Mais c'est fini, presque. J'ai fait une dernière slide. En fait, en gros, j'ai repris les six dimensions de Sorrell, Puis je les ai formulées sous forme de questions, en fait, pour vraiment qu'on réfléchisse à la pratique professionnelle. Donc, se questionner sur l'autre. Là, on n'est pas obligé de passer au travers de tout ça, mais qui est-il? Quelles sont ses habitudes? Quelle est sa langue d'origine? Quelles sont ses valeurs? Ça, c'est un peu ça, le questionnement. Je cherche à savoir c'est qui la personne devant moi, c'est quoi ses besoins, qui elle est. Après ça, prendre conscience du cadre de référence dans lequel moi j'interprète et l'autre interprète la réalité. Fait que comment lui voit ça, c'est quoi ses représentations, dans quel contexte se réalise la relation. Fait que ça aussi, c'est des questions intéressantes à se comprendre. Puis c'est ça, en fait, c'est que ça nous renseigne sur comment on peut améliorer la relation interculturelle. Constater les relations de pouvoir. Qu'est-ce que moi je représente? Est-ce que je suis privilégiée? Comment, si je le suis, je peux renverser ça? Communiquer avec bienveillance, ça c'était le dialogue. Donc, c'est quoi, moi, les qualités humaines que je mobilise dans la relation? Quels sont les obstacles de la communication? C'est quelle partie de mon identité sont mobilisées dans cette relation-là? Donc, tout ça, c'est pour, en fait, ma recherche est intéressante si on a une pratique réflexive, si on réfléchit sur notre pratique professionnelle, puis ça, en fait, ça peut être un outil. Donc, réfléchir, j'y arrivais. Quelle est la portée de mes actions? Quels éléments dans ma pratique pourrais-je améliorer? Puis, agir, bon, là, j'en ai parlé encore, mais comment créer les zones communes? Ça, c'était quelque chose qui ressortait beaucoup. Est-ce que j'y mets du mien dans la relation? Comment adapter mes comportements pour convenir davantage aux besoins des autres? Comment impliquer davantage l'autre dans mes interventions? Donc, c'est ça. Avez-vous des questions? Et je serais vraiment curieuse de savoir si, pour vous, il y a des éléments que vous croyez pertinents dans votre pratique à vous.